Les tsars du ballon rond, le quart d'heure des spécialistes.
Et bienvenue dans les tsars du ballon rond pour ce quart d'heure des spécialistes. Aujourd'hui, vendredi, premier jour de repos sur la Coupe du Monde où il n'y a pas de match. On va s'intéresser à l'arbitrage vidéo, faire un petit bilan après la phase de groupe. On sera avec Bruno Derrien, ancien arbitre international de football, auteur d'un livre sur le sujet SOS Arbitre, SOS Vidéo. Mais juste avant, c'est notre trublion à nous, Jérôme Moutet, qui va nous tailler le portrait de Bruno Derrien.
Bruno Derrien, vous êtes né à Brest le 9 avril 1964, la même année que disparaissait Maurice Le Boucher, qui n'a jamais égorgé de femme dans sa cave, mais qui était organiste et compositeur. Et la même année que disparaissait également George Dyson, qui n'a jamais inventé d'aspirateur sans sac, mais qui était aussi organiste. Alors que viennent-ils faire là? On le comprendra plus tard. Vous débutez une carrière professionnelle d'arbitre de haut niveau en novembre 1991 à l'occasion d'un match de Division 2. Puis, l'ascension est irrésistible, car en 96, vous officiez dans la finale de la Coupe Gambardella entre Nantes et Montpellier au Parc des Princes. Et le 17 août de la même année, c'est votre baptême du feu en Ligue 1, puisque vous êtes désigné arbitre central du match Lens-Nancy. Vous auriez arbitré en tout 350 matchs au niveau professionnel avec en point d'orgue, et c'est là que l'on se souvient des deux organismes décédés à votre naissance, une finale de Coupe de France entre Auxerre et Sedan en 2005. Vous avez également officié lors de 40 rencontres internationales, toutes coupes européennes confondues. Et le 20 mai 2007, vous arbitrez votre dernier match, Guignon-Bastia en Ligue 2, sans vous faire défoncer le portrait, ce qui est un exploit quand on arbitrait Bastia. Oui, arbitrez, car vous n'arbitrez plus, et Bastia, on sait plus, il joue encore au foot. Mais comme Johnny Hallyday et tant d'autres grands noms, vous faites votre retour le 12 juin dernier comme arbitre pour le match France 98, FIFA 98, pour célébrer les 20 ans de la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde 98. Au cas où, on ne s'en souviendrait pas. Nous, en Suisse, pays où l'on accueille tant de vos compatriotes frontaliers chaque matin, on en a pris pour 20 ans, sur ce coup-là. Mais, Bruno, mine de rien, ou merci, mais de rien, voilà quelques exemples de jeux de mots à la con que j'aurais pu faire, mais que je n'ai pas osé faire. Ah ben si, merde. Pour vous, les lauriers ne s'arrêtent pas là. Le 6 juillet 2016, vous recevez au Palais de l'Élysée l'Ordre National du Mérite des mains de François Hollande. Félicitations, mais il y a quand même une part de poisse de recevoir cette distinction lors du seul quinquennat que tous les Français aimeraient oublier. Mais ce n'est pas tout, puisque vous recevez aussi le prix Jacques Marchand, défense de l'esprit sportif, le 5 décembre 2011, en récompense de votre carrière et de vos écrits. Oui, vos écrits. Alors si vous aviez été joueur, personne ne le croirait, puisque le 95% d'eux ne savent pas écrire leur nom. Mais vous, vous étiez arbitre, et c'est un autre niveau. La meilleure vente d'un livre sportif en 2009, c'est vous, conjointement avec Raphaël Raymond, journaliste à l'équipe pour le livre « Abat l'arbitre ». Vous écrirez encore deux autres livres et vos révélations sulfureuses sur la face cachée de l'arbitrage n'ont pas rencontré un écho favorable chez Marc Batta, directeur national de l'arbitrage, lequel a intenté un procès en correctionnel s'estimant diffamé par certains passages. Mais il a été débouté de toutes ses demandes, et oui, dans le cul, Lulu. Mais comme vous êtes un touche-à-tout et que votre talent ne se limite pas seulement à souffler dans un sifflet et à taper vos mémoires sur un ordinateur, vous distillez aussi vos bonnes paroles sur M6, dans le journal L'Équipe, sur Europe 1, sur Eurosport, sur RTL et sur CNews. J'en passe et des meilleurs. Bruno Derrien, l'air de rien. On se souviendra donc de vous en tant qu'arbitre, mais on se souviendra surtout de votre talent sur le terrain, de votre talent dans l'écriture, de votre talent dans l'analyse, mais surtout, Bruno, on se souviendra qu'en tant qu'ancien arbitre et de par vos écrits, on peut dire, contrairement à beaucoup d'autres, que vous avez une belle paire de couilles, et ça, c'est assez rare pour être signalé. Alors pour tout cela, Bruno, on vous dit bravo et merci.
Bonsoir Bruno Derrien.
Bonsoir, et je dois répondre à votre humoriste, de rien.
Voilà, Jérôme Moutet en prend un peu pour son grade, c'est un petit peu normal aussi. C'est vrai que vous êtes un des acteurs incontournables dans le paysage audiovisuel français quand on parle de vidéo dans l'arbitrage. Hein. C'était un de vos sujets de prédilection, notamment sur votre fin de carrière.
Oui, comme l'a rappelé votre collègue, j'ai écrit 3 livres, dont un qui s'appelle SOS Arbitre, SOS Vidéo. Je l'ai écrit en 2010 avant la Coupe du Monde en Afrique du Sud parce que j'étais persuadé qu'il fallait aider les arbitres dans l'accomplissement de leur mission.
Bruno Derrien, on vous entend très mal. On va essayer peut-être de vous rappeler tout simplement pour voir si la liaison peut être meilleure. En attendant de retrouver Bruno Derrien, est-ce que Marcel Neuenschwander, mon confrère de RTN, est avec nous? Est-ce que Marcel, vous m'entendez? Allô Marcel, est-ce que vous m'entendez? Non, bon alors on va retrouver Bruno Derrien dans un petit instant pour parler de l'arbitrage vidéo, à moins que Bruno Derrien, vous êtes toujours avec nous?
Oui, je suis toujours avec vous. Ah, alors... Je vous entends de très mal aussi. Hein,
ouais, alors ça s'est peut-être légèrement amélioré, on va essayer. Bruno Derrien, après la phase de groupe de la Coupe du Monde, quelle première impression vous a laissé l'utilisation de cette VAR, de cet arbitrage vidéo, si on devait déjà tirer un premier bilan?
Oh, je dirais que c'est un bilan mitigé, contrasté. Il y a eu de bonnes décisions qui ont été prises grâce à la VAR, des erreurs qui ont été modifiées, corrigées à juste titre. Et au contraire, et à contrario, donc des actions où la VAR n'a pas produit tous ses effets, où on aurait aimé, je pense notamment qu'il y a un match entre la Suisse et le Brésil. J'ai le sentiment que oui. Le but de Suisse est entaché d'une faute. Il y a une poussée du Suisse dans le dos de Miranda. On pourrait parler aussi du match entre le Maroc et le Portugal, où le but de Ronaldo sur corner, il y a une faute de Pepe au premier poteau. Bon, il y a eu quelques couacs comme ça, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a eu de bonnes décisions qui ont été prises grâce à l'arbitrage vidéo.
Alors justement, si on prend par exemple l'exemple de ce Suisse-Brésil, normalement, ce n'est pas l'arbitre qui demande l'assistance de la VAR, mais c'est la VAR qui doit dire à l'arbitre « Là, il y a peut-être une poussette de Zuber sur Miranda, ça demande que vous alliez vérifier ça ». Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, la VAR justement n'alerte pas l'arbitre? Ça veut dire qu'ils n'ont pas regardé cette scène? Ça veut dire qu'ils l'ont regardé, mais ils ont estimé que ça passait comme ça?
Alors d'abord, il faut rappeler qu'ils sont quatre arbitres vidéo hein,
oui.
Par match à Moscou. Le centre est à Moscou. Et ils ont, il y a un arbitre vidéo qui est en liaison permanente avec l'arbitre. Et les trois autres assistent l'arbitre principal vidéo, dont un qui s'occupe uniquement du hors-jeu. Alors j'imagine qu'ils ont vu des images, parce que tout le monde a vu des images. Alors l'arbitre, lui, ne voit pas, parce que s'il voit la faute, il a sifflé tout de suite, il ne la voit pas. Je pense, alors faut rappeler le protocole, c'est que c'est l'arbitre donc qui demande, qui sollicite l'aide de la VAR lorsqu'il a un doute sur une décision, mais l'assistant vidéo peut aussi lui dire par les oreillettes, tiens, je te recommande sur cette action-là, je pense qu'il y a un problème, je t'invite ou je te recommande d'aller voir l'image au bord du terrain. Et à ce moment-là, l'arbitre peut, de sa propre initiative donc, mais invité par le VAR, aller voir l'image, et au final, il faut quand même rappeler que c'est toujours l'arbitre central qui prend la décision. C'est la décision de l'arbitre central qui prévaut toujours, finalement.
Et qui interprète aussi. Et finalement, on en revient toujours à ça. L'interprétation reste celle d'un être humain. Et c'est là qu'on voit aussi. J'ai l'impression, parfois, sur certaines actions, Bruno Derrien, si on met cinq arbitres devant la vidéo, ils ne prendraient pas forcément tous la même décision parce que c'est une question d'interprétation.
Vous avez raison. Bon, toutes les images n'apportent pas une vérité absolue. Et certaines sont toutes interprétables. Et bon, moi, j'interprète qu'il y a faute de Zuber sur Miranda. Bon, j'ai quand même entendu beaucoup le dire. Mais je vais parler aussi du match entre la France et l'Australie, où l'arbitre uruguayen ne siffle pas pénalty. Le ballon sort en entrée de touche. Et là, il est interpellé probablement par son arbitre assistant. Et ensuite, il va visionner l'image sur l'écran de contrôle. Et là, il se ravise et il décide de siffler pénalty. Moi, j'ai entendu en France, Papin, ancien grand attaquant, dire qu'il n'y avait pas faute. Vous voyez ? Moi, je ne suis pas convaincu de la faute non plus, mais je respecte la décision de l'arbitre. Vous voyez ? Parce qu'il y a des images, il faudra les interpréter. Alors, maintenant, on ne les interprétera plus en direct sur le terrain, comme c'était le cas, mais l'arbitre assistant vidéo va les interpréter, ou l'arbitre devant son écran, sur le long de la ligne de touche. Donc on va simplement déplacer le problème. Parce que tous ceux qui pensent que la vidéo va supprimer toutes les polémiques et les discussions sans fin dans l'arbitrage se trompent. Beaucoup d'actions relèveront toujours de l'interprétation de l'arbitre face à une image. Sauf pour les cas, les grosses fautes, les cas vraiment, les fautes énormes, je pense à la main de Maradona, la main de Thierry Henry, le but de Lampard en 2010 et d'autres. Il y a eu aussi des actions qui ont été corrigées.
Oui.
L'Allemagne contre la Corée, il y a deux jours, le but coréen est dans un premier temps refusé. Or, il s'avère que c'est un défenseur attaquant qui remet en jeu l'attaquant, un défenseur allemand qui remet en jeu l'attaquant coréen. Donc, dans un second temps, l'arbitre valide le but. Voilà, il faut souligner aussi qu'il y a de bonnes décisions qui ont été corrigées grâce à l'arbitrage vidéo. Je constate aussi qu'il y a eu beaucoup plus de pénalty sifflé lors de ce premier tour du monde, bien plus qu'il y a 4 ans. Je crois qu'il y a 4 ans, il y avait 13 pénalty qui avaient été sifflés sur l'ensemble de la compétition. Là, je crois qu'on est à peu près à 25 ou 26 ou 27 pénalty sifflés.
24, je crois. 24, il me semble.
24, oui.
Dont 9 accordés après visionnage de la VAR.
D'accord, et je pense qu'il y en aura beaucoup plus à la fin de la Coupe du Monde, on sera pas loin des 30-35. 35, vous allez voir. Mais ça, c'est un problème. Mais au moins, si la vidéo aussi permet d'assainir, je dirais même d'apurer, la surface de réparation, qui était devenue un peu une zone de non-droit où il y avait trop de fautes qui n'étaient pas vues et donc sanctionnées, bah, je pense que c'est une bonne chose.
Bon, on est quand même surpris de voir autant de coups de pied arrêtés, de voir autant de pénaltys. Est-ce que finalement, à un moment, ça ne vient pas dénaturer le football qu'on avait l'habitude de voir avant ?
Oui, mais est-ce que ce n'était pas des mauvaises habitudes qu'on avait prises ?
Oui.
C'est une vraie question. Est-ce que, est-il normal que des attaquants dans les surfaces soient muselés à tel point qu'ils ne soient plus en capacité de pouvoir marquer des buts parce qu'ils sont retenus, tenus par le maillot, accrochés en permanence ? Voilà, c'est une vraie question. Moi, je pense que le foot, c'est aussi des buts. On est tous contents quand il y a des 3-3, des 4-3, quand on voit du jeu, quand on voit du spectacle, quand on voit du but. On a vu des matchs, je pense notamment à France-Danemark, où c'est vraiment ennuyé. C'est pas passé grand-chose.
Clairement.
Quand il y a des buts, quand il y a du suspense, ben, je trouve ça génial. Moi.
Bruno Derrien, est-ce que vous trouvez que les arbitres ont été sereins et suffisamment préparés à l'utilisation de la vidéo ? Est-ce que vous avez vu leur attitude, la gestuelle, leur manière de gérer l'impatience des joueurs ? Est-ce que vous avez l'impression que ça a été bien géré ? On a eu parfois quelques moments de flottement quand même sur certains matchs.
Vous avez raison. Alors en début de compétition, dès que l'arbitre faisait appel à la VAR, alors tout de suite, il fait signe hein, avec les mains de la télévision. Personne n'approchait, les gens attendaient religieusement, je dirais, la décision de l'arbitre. Et ensuite, elle n'était pas contestée. Par contre, j'ai vu un ou deux matchs où dès que l'arbitre faisait appel à la VAR, tout de suite, il était entouré, encerclé, parce qu'il n'était pas content qu'il aille vérifier à l'image. On a vu aussi des coachs mettre pression sur le quatrième arbitre pour que l'arbitre se déplace et vienne voir les images. Bon, voilà. Alors, après, j'ai eu quand même le sentiment, d'une manière générale, parce que ça, ce sont des cas pas nombreux. Quand l'arbitre a pris sa décision par la vidéo, j'ai eu le sentiment quand même qu'elle est acceptée de tous. Vous voyez, sur le terrain. Je trouve qu'il y a moins de contestations. D'ailleurs, il y a un autre chiffre qui parle. Je crois qu'il n'y a eu que deux cartons rouges, un direct et un qui fait suite à deux cartons jaunes. Ce qui est peu.
Oui.
Ça veut dire que la vidéo aussi a peut-être aussi, sur le comportement des joueurs...
Dissuader certains comportements, oui.
Voilà. Donc ça aussi, ce sont les aspects positifs de la vidéo. Un autre, alors on avait dit aussi, mais alors les matchs vont être interminables, on va jouer 10-12 minutes d'arrêt de jeu. En moyenne, je crois qu'on...
La FIFA communique aujourd'hui 80 secondes en moyenne. Ah, on a perdu Bruno Derrien. Bon, on est désolé pour la liaison qui est difficile. Bruno Derrien qui est de l'autre côté de la frontière en France. Je ne sais pas si on aura le temps de le revoir, probablement pas. En tout cas, c'était intéressant ce que nous expliquait Bruno Derrien. Effectivement, il faisait référence aux derniers chiffres que nous a communiqué la FIFA sur l'utilisation de la vidéo, parce que la FIFA a fait un petit bilan statistique de l'utilisation de la vidéo dans cette phase de groupe de la Coupe du Monde. 335 incidents, selon la FIFA, on va dire situation ont fait l'objet d'une vérification. D'ailleurs, elle revendique, l'instance internationale du football, un taux de décision correct de 99,3% grâce à la vidéo, alors que sans la vidéo, on était à 95% de taux de décision correct, ce qui veut dire qu'on aurait statistiquement augmenté le nombre de décisions correctes. Après, le débat porte sur qu'est-ce qu'une décision correcte, hein, parce que vu qu'on a vu que c'était de l'interprétation des arbitres, c'est difficile à estimer. Tous les buts ont été revus, 122 sur la phase de groupe, nous dit-on. Il y a eu également un bon nombre de situations qui ont été vérifiées. Au total, quasiment 7 visionnages par match, donc 7 recours à la vidéo par match, ce qui est quand même beaucoup hein, pour une nouveauté. Ça veut dire que c'est une nouveauté mais à laquelle on recourt assez souvent. Et on nous dit également que dans 14 des cas, l'arbitre s'est déplacé sur le bord du terrain. Et effectivement, en moyenne, un recours à la vidéo prend 80 secondes, ce qui est par exemple moins qu'un corner ou moins qu'un autre arrêt de jeu, que ça soit par exemple un penalty, un changement ou ce genre de choses. Donc la FIFA, entre guillemets, se targue un petit peu de ces statistiques pour montrer l'efficacité de ce dispositif vidéo, mais vous l'avez entendu dans la bouche de Bruno Derrien que malgré tout, c'est quand même un bilan un petit peu mitigé, selon l'ancien arbitre international. C'est ce qu'on retiendra. On va voir pendant la phase à élimination directe, justement, si la vidéo va donner des issues particulières au match ou pas.
Les tsars du ballon rond.